Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Inès Lérault, Hélène Keller, sourde, muette et rebelle.
Flight number 2, arriving from New York.
Image en noir et blanc, Hélène Keller, robe fleurie, cheveux attachés, se tient bien droite, paupières baissées. À côté d'elle, son institutrice, corpulente, les cheveux gris, lui tient les mains et s'adresse au public.
Elle était sourde, aveugle et muette depuis ses 19 mois à cause d'une maladie. Elle n'avait aucun moyen de communiquer à part quelques signes qu'elle avait mis au point. Le signe poussé pour partir, le signe tiré pour venir, etc.
Hélène Keller a posé sa main gauche sur le visage de son institutrice.
Elle avait remarqué que nous n'utilisions pas les mains pour parler. Et je lui ai montré comment nous parlions avec notre bouche en mettant ses mains sur mon visage. Elle sentit les vibrations des mots parlés.
Son index sur les lèvres de celle-ci, son majeur sur ses narines et son pouce sur sa gorge.
Immédiatement, elle épela. Je veux parler avec ma bouche. Cela se révéla impossible. Mais après quelques tentatives, nous avons découvert qu'en plaçant ses mains dans cette position, le pouce sur la gorge, l'index sur les lèvres,
gros plan sur Anne Sullivan, elle a les cheveux gris et on voit qu'elle est aveugle, qu'elle voit très mal.
Elle pouvait sentir les vibrations de mots parlés.
Voilà un document extraordinaire qu'on a trouvé sur Internet. Extraordinaire ce document qu'on vient de décrire, qu'Inès et Charlotte vous ont décrit, avec la traduction des paroles d'Anne Mansfield Sullivan. Donc, à gauche, dans ce plan en noir et blanc, on voit Hélène Keller, et à droite, Anne Mansfield Sullivan, qui explique comment elle a réussi à faire parler cette jeune femme que je vois là sous mes yeux, Hélène Keller, qui, on vient de le dire, à 19 mois, à la suite d'une maladie, est devenue sourde et aveugle et était devenue véritablement une enfant sauvage. Et Anne Sullivan a réussi, après bien des tâtonnements, à lui faire comprendre, à communiquer avec elle de cette façon et à la faire parler par la suite, lui apprendre à écrire, à taper à la machine. Elle a fait des études formidables, elle est devenue diplômée des universités et elle a eu une vie extraordinaire puisque après la Deuxième Guerre mondiale, on la voit avec le président Eisenhower, on la voit ensuite avec le président Kennedy, et elle meurt en 1968. C'était un grand personnage public, une star presque de musical, on va le voir, aux États-Unis. Mais au départ, je l'ai dit, j'ai trouvé son nom en lisant Howard Zinn. Ah, on se dit, mais qu'est-ce que Howard Zinn, évidemment, aime mettre en scène des gens progressistes, des gens qui s'opposent. Eh bien, c'était le cas d'Hélène Keller. Hélène Keller, dans sa jeunesse, surtout, avait des idées progressistes, des idées socialistes, des idées féministes. Elle a été une militante féministe. Elle était par exemple, partisane du contrôle des naissances. Et ça, aujourd'hui, si son nom dit encore quelque chose aux États-Unis, son nom, évidemment, dit quelque chose dans le milieu de la surdité, dans le milieu de la cécité, toujours aujourd'hui. Mais si son personnage dit encore quelque chose aux États-Unis, ce côté, évidemment, progressiste a été soigneusement gommé. Et c'est ça qui nous a intéressés et qui, j'espère, vous intéressera. d'ici à 16h dans la basse, j'y suis, Hélène Keller, sourde, muette et rebelle.
Qui est en étage, donc pas forcément facile d'accès. Alors ça lui donne le caractère un peu confidentiel. Voilà, c'est cette pièce, cette grande pièce, donc avec des collections qui sont dévolues à l'histoire des aveugles. Il y a ce tempo allumé dans les vitrines pour faire ressortir le relief. Le mobilier est un mobilier qui a été créé spécialement pour cette pièce et qui date de 1907 et qui n'a pas changé. Et donc ça donne à cet endroit une atmosphère très particulière, un petit peu comme un cabinet d'amateurs, d'autant que ce sont des objets qui sont rares et des curiosités, on va dire. Donc le premier ouvrage de Valentin Huy, dans lequel il explique sa méthode, l'essai sur l'éducation des aveugles, une lettre qu'il a écrite avec un système qui reproduisait l'écriture des voyants, ce globe qui est ici, cet immense globe qui a été fabriqué spécialement pour les classes de géographie de l'Institut des jeunes aveugles.
Un globe en relief ?
En relief, tout est en relief, oui, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais tout est en relief, oui, pour pouvoir être touché. On a aussi des objets réalisés par des aveugles, des sculptures, puisque la sculpture est un art du toucher, des gravures qui représentent des aveugles. Pour parler de cette histoire qui est une longue histoire, c'est une histoire transversale qui a à voir avec l'histoire de la pauvreté, de la bienfaisance, des préjugés aussi à l'égard des personnes aveugles. Et puis il y a une vitrine qui est consacrée donc aux aveugles sourds, ces enfants atteints de la triple infirmité, on disait, cécité, surdité et mutisme. Et cette vitrine, elle présente un portrait d'Hélène Keller, cette femme américaine qui était née à Alabama, qui avait perdu la vue et l'ouïe bébé à la suite d'une maladie, peut-être la scarlatine, on ne sait pas très bien. Et c'est un beau portrait, elle était belle. C'est un bas-relief avec une technique un petit peu comme ce qu'on faisait à la Renaissance, le schiacciato, c'est-à-dire que le visage se détache en relief. C'est un profil, elle est en buste, et à la fois elle se détache, mais elle rentre un petit peu dans la représentation. Ça date de 1907.
Hélène Keller avait 27 ans.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le bas-relief?
Be blind is to see the bright side of the life. Ça veut dire être aveugle, c'est voir le côté lumineux de la vie. Donc c'est une phrase d'Hélène Keller. Alors c'est vrai qu'elle a beaucoup écrit. Hélène Keller donc était sortie de ce qu'elle a appelé dans sa biographie, puisqu'elle a écrit l'histoire de sa vie, le no world, le non monde, grâce à une préceptrice qui s'appelait Anne Sullivan. Elle avait imaginé une méthode pour qu'elle comprenne que en fait à chaque chose correspond un mot. C'est un langage tactile, de signes tactiles. C'était, comment dire, dessiné sur la paume de la main. Et puis, comme c'était une petite fille très, très intelligente, elle va apprendre très vite. Ensuite, le braille, et elle ira à l'université et sera la première femme diplômée, en fait, handicapée diplômée au monde.
Voilà, on est à l'association Valentin à Huy à Paris, et vous avez compris qu'on est dans une institution pour aveugles, mais là, il y a un cas très particulier. Hélène Keller faisait partie de ces cas très particuliers d'aveugles et sourds. Je dis sourd et muette, mais c'était sourde et aveugle, et donc dans sa petite enfance, elle était également mutique, et grâce à cette préceptrice, Anne Sullivan, eh bien voilà, on a compris, elle a peu à peu réussi à communiquer, hein, par ce langage tactile sur la peau, sur les mains. On voit dans les documents qu'on trouve assez facilement sur Internet comment elle communiquait par pression des mains, comme ça, par pression des doigts, avec sa préceptrice. Et puis comment, par la suite, elle a réussi à parler. Ça, c'est le phénomène le plus merveilleux et le plus étonnant. Comment Anne Sullivan prenait la main d'Hélène Keller, la posait sur son visage, à elle, Anne Sullivan, de façon à ce que, avec sa main, Hélène suive les mouvements du visage d'Anne, vous comprenez ? Et quand elle parlait. Et de cette façon, elle pouvait enregistrer par la main les mouvements du visage et réussir peu à peu de cette façon à parler. Il y avait un autre mouvement, c'était de mettre le pouce, qu'Hélène mette son pouce sous. Sur le menton, sur la gorge d'Anne Sullivan quand elle parlait, et de cette façon elle pouvait comprendre, saisir, intérioriser les vibrations, et elle a pu émettre des sons et peu à peu à parler. Alors tout ça avait donné lieu à un film qui s'appelle Miracle en Alabama, qui était sorti, un film de Sean Penn, qui était sorti en 1962. Peut-être l'avez-vous vu, mais comme c'est déjà ancien, c'est peut-être un peu oublié. On continue cette visite avec l'érudite Noël Roy.
Voilà, s'ouvre le couloir. Allez-y.
Voilà, je suis dans la petite bibliothèque de l'Institut Valentin à Huy, consacrée aux personnes aveugles et malvoyantes. Et il y a quelques archives sur Hélène Keller, sur la vie d'Hélène Keller, et notamment un petit livre de Erglena qui s'appelle Hélène Keller. Éducation d'une jeune fille aveugle, sourde et muette. La presse des États-Unis s'est beaucoup occupée ces dernières années d'Hélène Keller. Jeune fille sourde, aveugle et muette que l'éducation a réussi à développer d'une façon tout à fait surprenante. Hélène Keller, actuellement âgée de 14 ans, s'exprime par la parole, perçoit par le toucher la parole des autres et rédige dans un anglais correct des lettres écrites en caractères fermes et distincts. Elle apprend le latin et le français et a récité dernièrement devant plusieurs personnes le Psalm of Life de Longfellow à la satisfaction générale. Nous avons reproduit au début de ces pages une photographie que M. Hitz a bien voulu nous envoyer. Elle représente Hélène Keller qui, la main sur la bouche de son institutrice, reçoit l'enseignement qui lui est donné. Effectivement, c'est une belle photo de profil où Anne Sullivan, l'institutrice, est habillée en noir, un livre ouvert sur les genoux. Hélène Keller est face à elle, habillée dans une belle robe à volant, blanche, les cheveux détachés, et elle pose sa main gauche sur les lèvres de son institutrice, qui lui lit le livre qu'elle a sur les genoux. Hélène Keller, fille aînée du major Arthur Keller, est née en 1880 à Tuscumbia, comté de Colbert, dans l'Alabama. Son arrière-grand-père, Caspar Keller, était un Suisse qui alla s'établir en Amérique. Autant qu'il est possible de se le rappeler, elle possédait à sa naissance toutes les facultés d'une enfant bien portante. Mais à l'âge de 18 mois, elle tomba dangereusement malade et lorsqu'elle fut guérie, on s'aperçut qu'elle était complètement sourde et aveugle. En 1887, elle fut placée sous la direction de Miss Sullivan, qui avait été un des professeurs les plus distingués de l'Institut des aveugles de Perkins School à Boston. Par les soins fidèles de cette institutrice, l'intelligence d'Hélène Keller se développa avec une grande rapidité.
One day, she takes Helen to the water pump. She gets the water running. She puts Helen's hand under the water, and then she simultaneously also signs water into Helen's hand. And Helen then learns the connection between the symbols that she is making into the child's hand and the word that it is. From then on, her vocabulary just expanded at a staggering rate. Anne was by far the most important thing in Helen Keller's life.
C'est une boîte à ronron. À chaque qui ronronne, ça vibre. Donc je pense que ça peut être très intéressant pour une personne sourde aveugle. Et c'est doux, au toucher.
Sandrine Schwartz, vous êtes linguiste et vous étudiez la question du langage chez les sourds aveugles.
Plus particulièrement la langue des signes tactiles, qui est une variante de la langue des signes utilisée par les personnes sourdes, bienvoyantes, et qui est utilisée par des personnes qui sont sourdes aveugles, donc pour la comprendre. Elles posent leurs mains sur les mains de leur interlocuteur qui s'exprime en langue des signes.
Voilà, vous avez compris. On a voulu aller plus loin, essayer de comprendre. Et on est avec Sandrine Schwartz, et qui est en train d'écrire un livre sur l'histoire des sourds aveugles. On la rencontre chez elle à Paris, dans le 19e arrondissement.
Alors Hélène Keller, c'est une petite fille qui est née en 1880 et qui a grandi de manière parfaitement normale jusqu'à ce qu'à l'âge de 18 ou 19 mois, une maladie la frappe et qu'elle devienne sourde aveugle. Donc à partir de ce moment-là, ça a été très difficile pour elle et sa famille qui ont essayé de trouver une solution pour la scolariser. Et sa mère a eu vent d'un écrit qui a été fait par Charles Dickens, qui s'appelle American Notes, où il parlait d'une sourde aveugle qui s'appelle Laura Bridgman et qui a été éduquée à Boston. Et donc, ils ont contacté l'école de Boston, qui, eux, ont formé une enseignante pour intervenir auprès d'Hélène Keller, qui, à ce moment-là, avait 7 ans. Et c'est une enseignante qui n'est vraiment pas anodine, c'est Anne Sullivan, une personne qui a eu un rôle très très important pour Hélène Keller. Alors Annie Sullivan, c'était une petite fille aussi qui a une destinée assez extraordinaire. Elle est née malvoyante dans une famille très pauvre, avec un frère malade. Sa mère est morte très tôt. Son père, 2 ans après, a abandonné ses enfants. Donc Annie Sullivan et son petit frère ont été mis dans un orphelinat où le petit frère est décédé assez rapidement. Et Annie Sullivan a demandé à corps et à cri à recevoir une éducation. Malgré sa malvoyance, elle voulait apprendre des choses. Et elle a été donc mise dans une école d'aveugles, l'école de Boston, où elle a appris à lire avec les doigts. Et ensuite, elle a été opérée et a retrouvé une certaine acuité visuelle qui lui permettait de lire des caractères d'imprimerie, mais pas très longtemps. Et ça la fatiguait énormément. Elle a donc décidé de devenir enseignante à son tour pour des enfants aveugles. Elle est donc partie dans la famille d'Hélène Keller et elle a commencé son éducation. Alors au début, la difficulté, ça a été un petit peu de maîtriser Hélène Keller, si on peut dire, parce qu'elle était très colérique, elle ne comprenait pas forcément qu'il y avait une certaine attitude à avoir à table, une certaine attitude à avoir envers les personnes qui l'entouraient. Donc la première chose, c'est qu'Annie Sullivan a demandé à être isolée de la famille et qu'Hélène Keller ne soit qu'avec elle pour essayer de lui enseigner un maximum de choses. Quant à la langue, la manière dont elle y a eu accès, ça a été par une immersion totale, c'est-à-dire qu'Annie Sullivan n'a eu de cesse de montrer des objets et d'épeler leur nom dans la main d'Hélène Keller, de montrer des objets, d'épeler à nouveau le nom, jusqu'à ce qu'un jour, un mois après son arrivée, Hélène Keller ait le déclic dans la scène mythique où elle active une pompe, une espèce de fontaine, où de l'eau sort, où elle met la main d'Hélène Keller sous la pompe, et elle épelle eau, water en anglais, et à ce moment-là, Hélène a le déclic. Et à partir de ce moment-là, elle n'a eu de cesse que de demander le nom de toutes les choses qui l'entouraient.
It is not blindness or deafness that brings me my dearest others.
Ce n'est pas la cécité ni la surdité qui m'ont apporté mes heures les plus sombres.
It is the acute disappointment.
Mais la déception de ne pouvoir parler normalement. Longuement, j'ai pensé combien j'aurais pu mieux faire si j'avais su apprendre à parler normalement. Mais au sortir de cette triste expérience, j'ai pleinement compris l'importance des efforts humains, des ambitions et la capacité infinie de l'espoir.
Voilà, la voix d'Hélène Keller, c'est évidemment des documents extraordinaires, bouleversants, quand on songe que elle avait complètement perdu l'usage de la parole, suite évidemment à cette double infirmité qui la frappait, de la surdité et de la cécité. Il faut dire, on en parlera plus loin, mais elle a été un phénomène national aux États-Unis et même mondial. On la verra au Japon, au moment d'Hiroshima, on la verra voyager à travers le monde. Et elle était un peu aussi une attraction. Hein, elle faisait des soirées avec un orchestre qui la précédait et elle racontait son histoire. Mais ce qui ne l'empêchait pas, c'était sa façon de vivre et d'exister. Et à la demande, évidemment, d'un public stupéfait, étonné et bouleversé, bien sûr. Mais ça n'empêchait pas, en même temps, d'être une femme progressiste, comme on va le voir un peu plus loin. Là, on rencontre Jacques Souriot, qu'on rencontre à Poitiers, avec Inès Leroy, et qui est l'ancien directeur de l'école pour sourds et aveugles de Poitiers.
Tout le combat d'Anne Sullivan, c'est qu'elle se trouve face à une enfant sauvage, et il faut arriver à lui faire comprendre que toute chose a un nom. Mmh. Ce moment se passe comme un déclic,
ouais,
à travers le moment où on lui fait couler de l'eau sur une des mains et sur l'autre, ouais, la main laissée libre, on lui écrit le mot « eau ». Est-ce que pour vous, ça s'est vraiment passé comme ça ?
Que ça a été un grand moment, je peux le penser, parce que ça a été rapporté par les deux, je crois. Enfin, mais la façon dont on décrit l'événement peut prêter à discussion, parce que là, ce que vous avez dit, c'est que Anne Sullivan a enfin réussi à lui faire comprendre que les choses avaient un nom. Or, avant elle, il y avait d'autres gens dans sa vie, en particulier la fille de la cuisinière, Martha Washington, qui était une compagne de jeu. Et elles avaient trouvé des gestes entre elles. C'est-à-dire qu'elles avaient construit une langue des signes à elles, des premiers signes.
Hein. Après, Hélène Keller, dans son livre « Histoire de ma vie », elle raconte aussi qu'elle savait communiquer sur plusieurs choses avec sa mère. Par exemple, oui, elle faisait le mime de couper du pain, voilà, et de beurrer des tranches, voilà, pour dire qu'elle voulait du pain.
Voilà. Donc, dire qu'elle n'avait aucune communication avant Anne Sullivan, c'est ce qu'on tend à penser. C'est une erreur. Il y avait déjà des choses qui se passaient du point de vue de la communication avant. Et je crois, enfin, je me souviens, faudrait que je retrouve, mais que Hélène Keller disait qu'avec Martha, c'était bien parce qu'elle pouvait se comprendre. L'autre compagnon de jeu, c'était le chien. Mais le chien, lui, il savait pas faire de gestes. Et alors, ça montre aussi une dimension de l'être humain en général, c'est que non seulement un être humain est capable d'apprendre la langue de ses parents, mais il est aussi capable de construire une langue. Et ça, ça a été décrit par contre de façon beaucoup plus précise chez les enfants sourds qui sont nés dans des familles ou dans des environnements où il n'y a aucun sourd et qui développent des langues des signes locales. Et ce qui est d'abord un mime, c'est-à-dire une espèce de reproduction de ce qu'on vit quand on produit l'action, devient un code partagé, et en ajoutant un geste à l'autre, on finit par constituer une espèce de vocabulaire, un langage local qui peut être relativement important en termes de dimension et d'efficacité de communication. Donc en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est surtout que Anne Sullivan et Helen Keller ont enfin trouvé leur terrain d'entente. C'est-à-dire que c'est comme si Helen Keller avait compris « Ah, pour toi, le nom des choses, c'est quand on les épelle dans la main. C'est pas comme faisait Martha ou pas comme faisait maman. » On pourrait dire ça comme ça.
En fait, Anne Sullivan, pour Helen Keller, elle lui a permis de passer du langage
local
au langage universel, qui était beaucoup plus complexe parce qu'il avait une histoire beaucoup plus longue.
Oui, voilà, elle l'a amené au langage de la culture, la langue anglaise, donc on pourrait dire ça comme ça.
Et Anne Sullivan, elle enseigne pas la langue des signes à Hélène, elle enseigne donc l'alphabet manuel, elle épelle chaque mot lettre par lettre.
Oui, les lettres de l'alphabet manuel sont des positions de la main. Si on ferme le poing, on a la lettre A. Si j'ouvre la main avec les doigts serrés et que je mets mon pouce collé à la main,
collé à la paume,
je vais avoir la lettre B. Si je fais un rond avec mon pouce et mon index, j'ai la lettre O. C'est la main qui prend, pour chaque lettre de l'alphabet, ça prend une forme qui correspond à cette lettre.
Et c'est comme ça que Hélène, touchant la main de son institutrice qui prenait des formes,
pouvait sentir les lettres
qui formaient des mots.
Voilà, Jacques Souriau à Poitiers, c'est très beau cette histoire de passer du local au global comme ça, hein, du langage intime à un langage universel. Et ça nous renvoie à notre capacité à inventer des langages. Vous connaissez ce qui arrive à des jumeaux parfois, cette création de langage des enfants jumeaux qui créent véritablement leur langue, mais qui parfois arrivent à se couper du reste du monde et même de leurs parents. Mais ensuite, il y a un passage au langage général, à la langue commune, du vernaculaire au véhiculaire. Et la question qu'on se pose en écoutant ces observateurs, ces spécialistes, c'est est-ce que c'était le seul cas? On a l'impression qu'évidemment, Helen Keller était seule au monde à être dans cette situation. Voilà la réponse de Sandrine Schwartz.
Alors, c'est une histoire aussi qui n'est pas très commune. C'est qu'à l'âge de 10 ans, elle a eu vent qu'il existait en Europe, en Norvège plus exactement, une petite fille, sourde aveugle, qui s'appelle Ragnhild Katta, qui elle-même avait été éduquée uniquement par la parole, qui n'avait pas reçu d'éducation en langue des signes.